Chapitre 11. Le baron de Champdoré avait eu, en sa vie, une nuit terrible dont il avait compté les secondes au pouls de son fils agonisant. La veille au soir, les médecins lui avaient dit « S'il passe cette nuit, il peut être sauvé. » Au jour, il avait rendu le dernier soupir. Eh bien, c'est à peine si, pour le vieux gentilhomme, cette nuit fatale avait eu plus d'angoisse que celle-ci, passée tout entière hors de la maison par Mademoiselle Denise. Il savait bien que Blanchet et sa femme étaient de braves gens, malgré leur avarice et leur âpreté au gain. Il savait bien que Jacques de Boiscoran était un homme d'honneur. N'importe, toute la nuit, son vieux valet de chambre l'entendit se promener de long en large dans sa chambre, et dès 7 heures du matin, il était sur le seuil de la porte, interrogeant d'un œil inquiet le lointain de la rue. Vers 7h30, maître Folga vint le rejoindre, mais c'est à peine s'il lui souhaita le bonjour, et certainement, il n'entendit rien de tout ce que lui dit l'avocat pour le rassurer. Jusqu'à ce qu'enfin, « La voilà !» s'écria le vieillard. Il ne se trompait pas, Mademoiselle Denise venait de tourner le coin de la rue de la Rampe. Elle remontait, avec une hâte fiévreuse, comme si elle eût senti que ses forces étaient à bout, et qu'il lui en resterait bien juste assez pour arriver. C'est avec une sorte de joie farouche que grand-père Champdoré se jeta au-devant d'elle et qu'il la serra entre ses bras en répétant « Oh, Denise, oh, ma fille bien-aimée, comme j'ai souffert, comme tu as tardé! Mais tout est oublié, viens, viens vite !» Et il entraîna, il la porta plutôt dans le salon et il l'assit mollement sur une causeuse. Il s'agenouilla ensuite près d'elle, riant de bonheur. Mais dès qu'il lui eut pris les mains, « Tes mains sont brûlantes » s'écria-t-il, « tu as la fièvre !» Il la regarda, elle venait de relever son voile. « Tu es pâle comme la mort » continua-t-il, « tu as les yeux rouges et gonflés. »«
J'ai pleuré, bon papa » répondit-elle doucement.
« Pleuré ? Pourquoi ?»
« Hélas, je n'ai pas réussi !»
Comme s'il eût été mu par un ressort, M. de Champdoré se dressa. « Par le saint nom de Dieu » s'écria-t-il, « on n'a jamais rien ouï de pareil depuis que le monde est monde. Quoi, tu es allé, toi, Denise de Champdoré, le trouver dans sa prison, tu l'as supplié ?»
Et il est resté inflexible. « Oui, bon papa, il ne parlera pas avant la fin de l'instruction. »
C'est que nous nous étions trompés. Ce garçon n'a ni cœur ni âme. » Péniblement, Mademoiselle Denise s'était soulevée.
« Ah, ne l'accuse pas, bon papa !» interrompit-elle. « Ne l'accuse pas, il est si malheureux !»
« Enfin, que dit-il pour ces raisons ?»«
Il dit que la vérité est tellement invraisemblable que certainement on refusera de le croire et qu'il se perdrait s'il parlait tant qu'il est au secret et privé de l'assistance d'un défenseur. Il dit que son horrible situation est le résultat d'une exécrable vengeance. Il dit qu'il croit connaître le coupable et que, puisqu'il y est réduit, pour se défendre, il accusera. »
Témoin silencieux jusqu'à ce moment, maître Folga s'approcha. « Êtes-vous bien sûre, mademoiselle, interrogea-t-il, que monsieur de Boiscoran se soit exprimé ainsi ?»«
Oh, très sûre, monsieur, et je vivrai des milliers d'années que je n'oublierai ni l'expression de son regard, ni le timbre de sa voix. »
Monsieur de Champdoré ne permit pas qu'on l'interrompît davantage.
« Mais à toi, reprit-il, à toi, chère fille, Jacques a dû dire quelque chose de plus précis. »«
Rien. »
« Tu ne lui as donc pas demandé ce qu'est cette vérité si invraisemblable ?»«
Oh, si !»«
Eh bien ?»
Il s'est écrié que c'était à moi surtout qu'il ne pouvait pas la dire, que j'étais la dernière personne du monde à qui il la dirait.
« Cet homme mériterait d'être brûlé à petit feu, » gronda M. de Champdoré.
Puis, à haute voix,
« Et tout cela, chère fille, » interrogea-t-il, « ne te paraît pas bien extraordinaire, bien étrange ?»«
Tout cela me semble affreux. »«
J'entends, mais que penses-tu de la conduite de Jacques ?»«
Je pense, bon papa, que s'il agit ainsi, c'est qu'il ne peut agir autrement. Jacques est un homme trop supérieur par l'intelligence et par le courage pour s'abuser grossièrement. » Étant seul à sa voix, il est seul bon juge de la situation.
Plus que personne, je dois respecter ses raisons. » Mais le vieux gentilhomme ne se croyait pas obligé de les respecter, lui, et cette réponse résignée de sa petite fille, achevant de l'exaspérer, il allait lui dire toute sa pensée lorsqu'elle se leva, non sans effort. « Je suis brisée, bon papa » fit-elle d'une voix expirante. « Permets-moi, je te prie, de regagner ma chambre. » Elle quitta le salon, en effet. Monsieur de Chandoré la suivit jusqu'à la porte et il y resta jusqu'à ce qu'il eût vu monter l'escalier au bras de sa femme de chambre. Revenant alors à Maître Folga, « On me la tuera, monsieur » s'écria-t-il avec une explosion de colère et de désespoir effrayant chez un homme de cet âge. J'ai vu dans ses yeux, à travers ses larmes, le regard qu'avait sa mère quand, après la mort de son mari, de mon fils, elle me disait « Je n'y survivrai pas ». Elle n'y a pas survécu, en effet. Et alors, moi, vieillard, je suis resté seul avec cet enfant qui peut-être avait en elle le germe du mal affreux qui a emporté sa mère. Seul, et voilà 20 ans que je retiens mon haleine pour écouter si elle respire toujours du même souffle égal et pur. « Vous vous alarmez à tort, monsieur, » commença Maître Folga. Grand-père Chandoré secoua la tête. « Non, dit-il, mon enfant est peut-être frappé au cœur. Ne venez-vous donc pas de la voir, plus blanche que la cire, et d'entendre sa voix, sans vie et sans chaleur ? Mon Dieu, de quelle faute me punissez-vous en mes enfants ? Par pitié, rappelez-moi à vous, avant celle qui est la joie de ma vie. Et ne rien pouvoir pour conjurer le malheur. Vieillard inepte et stupide ! Ah, ce Jacques de Boiscoran ! S'il était coupable, cependant, si cet homme que Denise aime était un assassin, ah, le misérable, j'achèterais la place du bourreau pour qu'il périsse de mes mains. » Profondément ému, Maître Folga arrêta du geste Monsieur de Chandoré. « N'accablez pas Monsieur de Boiscoran, alors que tout l'accable, monsieur, prononça-t-il. De nous tous, c'est encore lui le plus cruellement éprouvé, car il est innocent. » « Le croyez-vous toujours ?»« Plus que jamais. Si peu qu'il ait parlé, il en a dit assez à Mademoiselle Denise pour me démontrer la justesse de mes conjectures et me prouver que j'avais touché du doigt le point précis. »« Quand ?»« Le jour où nous sommes allés ensemble à Boiscoran, monsieur le baron. » Monsieur de Chandoré parut chercher. « Je ne me rappelle pas, » commença-t-il. « Et cependant, » insista l'avocat, « vous êtes sorti pour permettre au vieil Antoine que j'interrogeais de me répondre plus librement. »« C'est juste, » interrompit M. de Chandoré, « c'est très juste. Alors vous supposez... »« Je crois que mon point de départ était exact, oui, monsieur. Quant à chercher comment, c'est ce que je ne ferai pas. M. de Boiscoran nous dit que la vérité est invraisemblable, j'en serai donc pour mes conjectures. » « Seulement, puisque nous voici les mains liées et réduits à attendre la fin de l'instruction, j'en profiterai pour questionner les gens du pays, qui me répondront peut-être mieux qu'Antoine. Vous avez parmi vos amis des personnes qui doivent être bien informées, M. Sénéchal, le docteur Seignebos. » Pour ce dernier, Maître Folga ne devait pas avoir longtemps à attendre, car au moment où son nom était prononcé, il criait au domestique dans le corridor. « C'est moi, Seignebos, le docteur Seignebos. » Et presque aussitôt, il entra comme une trombe dans le salon. Il y avait alors 4 jours que le docteur Seignebos n'avait paru rue de la Rampe, car il n'était pas venu reprendre lui-même le rapport et les grains de plomb qu'il avait confiés à Maître Folga. Il les avait envoyés chercher par son domestique, s'excusant sur l'importance et la multiplicité de ses occupations. Il est de fait que, ces 4 jours, il les avait, autant dire, passés à l'hôpital, en compagnie d'un sien confrère, médecin au chef-lieu, mandé par le parquet pour procéder, conjointement avec le docteur Seignebos, à l'examen de l'état mental de Coqueleux. « Et c'est cette expertise qui m'amène, » cria-t-il dès en entrant, « c'est cette expertise qui, si nous n'y mettons bon ordre, est en train d'enlever à M. de Boiscoran sa plus belle et sa plus sûre chance de salut. » Après ce que venait de leur rapporter Mademoiselle Denise, ni M. de Chandoré ni Maître Folga n'attachaient une grande importance à l'état de Coqueleux. Le mot de salut leur fit pourtant dresser l'oreille. Il n'y a pas de circonstances indifférentes dans un procès criminel.
« Il y a donc du nouveau, docteur ?» demanda l'avocat.
Le médecin commença par fermer soigneusement les portes et, posant sur la table sa canne et son chapeau à large bord,
« Non, il n'y a rien de nouveau, répondit-il. On continue, comme par le passé, à vouloir perdre M. de Boiscoran, et pour y parvenir, on ne recule devant aucune manœuvre. »«
On ? Qui on ?» demanda M. de Chandoré.
Dédaigneusement, le docteur haussa les épaules.
« En êtes-vous vraiment encore à vous le demander, monsieur ? » répondit-il. « Les faits, cependant, parlent assez haut. Du reste, écoutez, dans notre département, comme dans plusieurs autres, on trouve, j'ai la douleur de l'avouer, un certain nombre de médecins qui ne sont pas à la hauteur de leur grande mission et qui, même, pour parler net, sont des ânes battés. » Si grave que fut la situation, Maître Folga avait quelque peine à réprimer un sourire, tant le docteur avait de singulières façons. « Mais il est un de ces ânes, poursuivait-il, qui, pour l'épaisseur du sabot et la longueur des oreilles, dépasse de beaucoup tous les autres. Eh bien, c'est celui-là que le parquet a trié sur le volet et m'a rejoint. » Sur ce chapitre, il était prudent de brider la verve du docteur Saignebos. « Bref, interrogea M. de Chandoré.
Bref, monsieur, mon docte confrère est absolument persuadé que sa mission de médecin légiste consiste uniquement à opiner du bonnet et à dire amen à toutes les antiennes de la prévention.
Cocoleux est idiot, déclare péremptoirement M. Galpin d'Aveline.
Il est ou doit l'être, répond mon docte confrère. S'il a parlé lors du crime, c'est par suite d'une inspiration d'en haut, reprend le juge d'instruction.
Évidemment, conclut le confrère, il y a eu inspiration d'en haut. Car enfin, voilà la conclusion du rapport de ce savant docteur. Cocoleux est un idiot qui a été providentiellement illuminé par un éclair de raison. Il ne l'a pas écrit en propre terme, mais c'est tout comme. Il avait retiré ses lunettes d'or et il les essuyait avec une sorte de rage.
« Mais votre opinion à vous, docteur ?» demanda Maître Folga.
D'un geste solennel, M. Saignebos rajusta ses lunettes et froidement.
« Mon avis, répondit-il, et je l'ai longuement développé dans mon rapport, mon avis est que Cocoleux n'est pas idiot. »
M. de Chandoré tressauta, tant la proposition lui parut monstrueuse. Il connaissait Cocoleux, lui. Il l'avait vu traîner par les rues de Sauveterre pendant les 18 mois que ce misérable était resté en traitement chez le docteur.
« Quoi ? Cocoleux ne serait pas idiot ? » répétait-il.
« Non, déclara péremptoirement M. Saignebos, et pour en acquérir la certitude, il n'y a qu'à l'examiner. A-t-il la face large et plate, la bouche démesurée, la peau jaune et tannée, les lèvres épaisses, les dents carillées et les yeux louches ? Sa tête déformée se balance-t-elle d'une épaule à l'autre, trop lourde pour le cou ? Sa taille est-elle difforme, sa colonne vertébrale déviée ? Lui trouvez-vous un ventre volumineux et lâche, les mains lourdes et épaisses pendant sur les hanches, les jambes gauches, les articulations d'une épaisseur insolite ? Messieurs, ce sont là les caractères principaux de l'idiot. Les apercevez-vous chez Cocoleux ? Moi, je vois un gaillard qui a une santé de fer, adroit de ses mains, qui grimpe comme un singe sur les arbres pour y dénicher des nids et qui franchit des fossés de 10 pieds. Certes, je ne prétends pas qu'il ait une intelligence normale, mais je soutiens qu'il faut le classer parmi ces imbéciles chez qui certaines autres facultés, en quelque sorte plus essentielles... Si Maître Folga écoutait, avec toutes les marques d'un puissant intérêt, il n'en était pas de même pour M. de Chandoré.
« Entre un idiot et un imbécile, commença-t-il. »«
Il y a un abîme, s'écria M. Saignebos. » Et tout de suite, avec une volubilité torrentielle, « L'imbécile, poursuivit-il, garde encore des fragments d'intelligence. Il sait parler, exprimer ses sensations, traduire ses besoins. Il associe des idées, compare ses impressions, se souvient, acquiert de l'expérience. Il est capable de ruse et de dissimulation. Il est... Il aime ou il craint. S'il n'est pas toujours sociable, il est toujours accessible aux suggestions d'autrui. On arrive aisément à exercer sur lui une domination absolue. L'inconsistance de ses desseins est caractéristique, et cependant, il est souvent d'une obstination inexpugnable et peut s'attacher à une idée avec une opiniâtreté extraordinaire. Enfin, les imbéciles, précisément à cause de cette demi-lucidité, sont fréquemment dangereux. C'est parmi eux que se trouvent presque tous ces misérables monomanes que la société est obligée de séquestrer, faute de savoir comment réfréner leurs instincts. « Très bien, » approuva Maître Folga, qui trouvait peut-être là les éléments d'une plaidoirie. « Très bien. » Le docteur s'inclina. « Tel est Cocoleux, » prononça-t-il. « S'ensuit-il que je l'estime responsable de ses actes ?»« Non, certes, mais il s'ensuit que je puis voir en lui un faux témoin, stylé pour perdre un honnête homme. » Il était clair qu'un tel système ne plaisait pas à Monsieur de Chandoré. « Autrefois, docteur, fit-il, vous ne disiez pas cela. »« Je disais même précisément le contraire, monsieur, » répondit, non sans dignité, monsieur Saignebosse. « Je n'avais pas assez étudié Cocoleux, et j'ai été sa dupe, et il ne m'en coûte pas de l'avouer. Mais de mon aveu précisément, je tirerai une preuve de l'astuce et de la perversité obstinée de ces demi-idiots et de leur aptitude à poursuivre un dessein. » Après un an d'expérience, j'ai renvoyé Cocoleux en déclarant et en croyant certes qu'il était incurable. La vérité est qu'il ne voulait pas être guéri. Les campagnards, ces fins et soupçonneux observateurs, ne s'y sont pas trompés, eux. Presque tous vous diront que Cocoleux est bien plus malin que bête. C'est exact. Il a constaté qu'en exagérant son imbécilité, qui, je le répète, existe, il gagnerait de pouvoir vivre sans travailler. Et il a exagéré. Installé chez M. de Claudieuse, il a eu l'art de montrer juste assez d'intelligence pour se rendre plus supportable et s'attirer un meilleur traitement, sans toutefois être astreint à aucune besogne. En un mot, fit M. de Chandoré, toujours incrédule, Cocoleux serait un grand comédien. Assez grand pour m'avoir trompé, oui, monsieur, répondit le docteur. Et s'adressant à Maître Folga, tout cela, reprit-il, je l'avais dit à mon docte confrère avant de le conduire à l'hôpital. Nous y avons trouvé Cocoleux plus que jamais obstiné dans le mutisme dont n'avait jamais pu le tirer M. Galpin d'Avelines. Tous nos efforts pour lui arracher un mot ont échoué, bien qu'il fût très évident pour moi qu'il comprenait. Je voulais recourir à certains artifices fort licites, selon moi, qu'on emploie pour découvrir les simulateurs. Mon confrère s'y est opposé et a été encouragé dans sa résistance, je ne sais de quel droit, par le juge d'instruction. Alors j'ai demandé qu'on fît venir Madame de Claudieuse et qu'on la priât d'interroger Cocoleux, puisqu'elle a le talent de le faire parler. Monsieur d'Avelines ne l'a pas permis, et voilà où nous en sommes. Il arrive tous les jours que deux médecins chargés d'une expertise médico-légale diffèrent totalement de sentiments. La justice aurait fort à faire si elle prétendait les mettre d'accord. Elle nomme donc simplement un troisième expert dont l'opinion décide. Ainsi allait-il arriver, nécessairement, pour le cas de Cocoleux. Et non moins nécessairement, concluait le docteur Saignebosse, le parquet, qui m'a adjoint un premier âne, m'en adjoindra un second. Ils s'entendront comme baudets en foire, et je serai atteint et convaincu d'ignorance et de présomption. Si donc il se présentait chez M. de Chandoré, ajouta-t-il, c'est qu'il avait à réclamer un coup d'épaule. Il demandait que les familles de Boiscoran et de Chandoré missent en branle toutes leurs relations et fissent jouer toutes leurs influences pour obtenir qu'une commission de médecins étrangers au pays et parisiens s'il était possible fût chargée d'examiner Cocoleux et de se prononcer sur son état mental. À des hommes éclairés, disait-il, je me fais fort de démontrer que l'imbécilité de ce triste sujet est en partie simulée et que son mutisme obstiné n'est qu'un système pour s'éviter des réponses compromettantes. Mais ni M. de Chandoré, ni Maître Folga ne répondirent tout d'abord. Ils méditaient. Notez, insista M. Saignebosse, choqué de leur silence. « Notez, je vous prie, que si mon opinion triomphe, comme je suis en droit de l'espérer, l'affaire prend aussitôt une tournure nouvelle. » Eh oui, assurément, les bases de l'accusation pouvaient, par suite, se trouver en quelque sorte déplacées, et c'était là ce qui préoccupait si fort Maître Folga. « Et c'est ce qui fait, commença-t-il, que je me demande s'il ne serait pas plutôt nuisible qu'utile à M. de Boiscourant de démontrer la fourberie de Coqueleu. » Le docteur Saignebosse bondit. « Je voudrais, parbleu, savoir. » « Rien de si simple, répondit l'avocat. L'idiocie de Coqueleu est peut-être le plus grave embarras de la prévention et le plus solide argument de la défense. » Que peut répondre M. Galpin d'Aveline lorsque M. de Boiscourant lui reproche de baser une accusation capitale sur les propos incohérents d'un malheureux privé de toute intelligence et par suite irresponsable ? Ah, permettez ! S'écria M. Saignebosse. Mais M. de Chandoré ne perdait pas une syllabe. Permettez-vous même, docteur, interrompit-il, cet argument de l'imbécilité de Coqueleu est celui que vous avez invoqué dès le premier jour et qui vous paraissait, disiez-vous, si décisif qu'il n'était pas besoin d'en chercher un autre. » Avant que le médecin eût trouvé une réplique, Maître Folga poursuivit. « Qu'il soit établi, au contraire, que Coqueleu a véritablement conscience de ses paroles et tout change et la prévention est en droit, de par un arrêt de la faculté, de dire à M. de Boiscourant « Il n'y a plus à nier, vous avez été vu, voilà un témoin. » Il fallait que ces considérations frappassent bien vivement M. Saignebosse, car il demeura court 10 bonnes secondes, essuyant d'un air pensif ses lunettes d'or. Allait-il donc avoir nuit à Jacques de Boiscourant en prétendant le servir ? Mais il n'était pas homme à douter longtemps de soi. « Je ne discuterai pas, messieurs, reprit-il d'un ton sec, je vous adresserai seulement une question. » Oui ou non, croyez-vous à l'innocence de Jacques de Boiscourant ? Nous y croyons absolument, répondirent M. de Chandoré et Maître Folga. Alors, messieurs, nous ne courons, ce me semble, aucun risque à essayer de démasquer un misérable garnement. Tel n'était pas l'avis du jeune avocat. Démontrer que Coqueleu a conscience de ce qu'il dit, reprit-il, serait funeste si l'on ne réussissait pas à prouver en même temps qu'il a menti et que son accusation lui a été suggérée. Peut-on le prouver ? Est-il en moyen d'établir que, s'il s'obstine à ne répondre à aucune question, c'est qu'il redoute les conséquences de son faux témoignage ? Le docteur n'en voulut pas écouter davantage. Argusie d'avocat que tout cela ! S'écria-t-il assez peu poliment. « Je ne connais qu'une chose, moi, la vérité. »« Elle n'est pas toujours bonne à dire, » murmura l'avocat. « Si, monsieur, toujours, » riposta le médecin, « toujours et quand même, et quoi qu'il puisse arriver. Je suis l'ami de M. de Boiscourant, mais je suis encore plus l'ami de la vérité. Si Coqueleu est un misérable fourbe, comme j'en ai la conviction, notre devoir est de le démasquer. » Ce que ne disait pas M. Saignebosse, et peut-être ne se l'avouait-il pas, c'est que c'était entre Coqueleu et lui une affaire personnelle. Coqueleu l'avait joué, pensait-il, et lui avait été l'occasion d'une averse de quolibé dont il avait cruellement souffert sans qu'il y parût. Démasquer Coqueleu, c'était prendre sa revanche et renvoyer à ses ennemis le ridicule dont il l'avait accablé. Ainsi, reprit-il, mon parti est pris, et quoi que vous décidiez, messieurs, je vais dès aujourd'hui me mettre en campagne pour obtenir, s'il est possible, la nomination d'une commission. Il serait peut-être prudent, objecta Maître Folga, de réfléchir avant de rien faire, de consulter Maître Magloire. Je n'ai pas besoin de consultation de Maître Magloire quand le devoir parle. Vous nous accorderez bien 24 heures. Le docteur Saignebosse fronçait les sourcils en broussaille. « Pas une heure, s'écria-t-il, et je me rends de ce pas chez M. d'Aubigeon, le procureur de la République. » Sur quoi, reprenant son chapeau et sa canne, il salua et sortit, aussi mécontent que possible, sans daigner répondre à grand-père Chandoré, qui lui demandait des nouvelles de M. de Claudieuse, dont la situation, d'après ce qui se disait en ville, loin de s'améliorer, empirait de jour en jour. « Le diable emporte le vieil original !» s'écria M. de Chandoré avant même que le médecin eût franchi le corridor. Puis, s'adressant à Maître Folga, « Bien que je doive convenir, ajouta-t-il, que vous avez un peu froidement accueilli les grandes nouvelles qu'il nous apportait. » « C'est précisément parce qu'elles sont terriblement graves, répondit l'avocat, que j'aurais voulu qu'il me laissât le temps de réfléchir. Coqueleu jouant l'imbécilité, ou du moins exagérant son inintelligence, » C'est la confirmation de ce que disait hier M. de Boiscoran à Mlle Denise. C'est la preuve d'un odieux guet-apens, d'une exécrable vengeance longuement méditée et préparée. Là est le nœud de l'affaire, évidemment. M. de Chandoré tombait de haut. « Quoi ? S'écria-t-il. Telle est votre opinion, et vous avez hésité à appuyer les démarches de Seignebose, qui est un brave homme, décidément. » Le jeune avocat hochait la tête. « Si je tenais à gagner 24 heures, c'est que je crois indispensable de consulter M. de Boiscoran. Pouvais-je dire cela, M. Seignebose ? Avais-je le droit de lui livrer le secret de Mlle Denise ?»«
C'est juste, » murmura M. de Chandoré, « c'est juste. »
Mais pour écrire à M. de Boiscoran, l'assistance de Mlle Denise était indispensable, et ce n'est que dans l'après-midi qu'elle reparut, très pâle encore, mais armée, visiblement, d'une énergie nouvelle. Maître Folga lui dicta les questions à poser au prisonnier. Elle se hâta de les traduire, et vers les 4 heures, la lettre fut portée au greffier Méchiné. Le lendemain soir, la réponse arriva. « Le docteur Seignebose doit avoir raison, mes chers amis, » écrivait Jacques. « Je n'ai que trop de raisons d'être sûr que l'imbécilité de Coqueleux est en partie simulée et que sa déposition lui a été suggérée. Cependant, je vous en prie, ne faites aucune démarche pour provoquer une nouvelle enquête médicale. La moindre imprudence peut me perdre. Au nom du ciel, attendez pour agir la fin de l'instruction qui est prochaine maintenant, d'après ce que me dit Daveline. » C'est en famille que fut lue cette réponse, et sa concision résignée arracha à Mme de Boiscoran un cri de désespoir. « Lui obéirons-nous donc ? » s'écria-t-elle, « lorsqu'il est évident qu'il se perd, le malheureux, en s'obstinant ainsi ?» Mlle Denise se leva. « Seul juge de la situation, prononça-t-elle, Jacques a le droit de commander et notre devoir est d'obéir. J'en appelle à Maître Folga. » Du geste, le jeune avocat approuvait. « Tout ce qui était possible a été fait, dit-il. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. »